Silhouette a mis en service son deuxième parc de panneaux solaires pour produire de l'électricité. Mise en service, ça veut dire que ça y est, ce parc-là est mis en réseau sur le réseau électrique. Alors, qu'est-ce que ça apporte au final et qu'est-ce qui va se passer pour cette entreprise, si je puis dire, ou plutôt coopérative, parce que là, il y a une nuance et on va le comprendre tout de suite. Avec d'ailleurs sa directrice générale bénévole, je tiens à le préciser, qui est Timothée Hervé. Bonjour Timothée.
Bonjour.
Alors, on insiste sur bénévole.
Ah oui, parce que, comme vous avez dit, Silhouette, c'est une coopérative et en fait, elle est gérée que par des bénévoles. Donc, on est très content de fonctionner comme ça. Néanmoins, c'est vrai qu'il faut le mettre en avant parce que c'est une coopérative qui a aujourd'hui 500 sociétaires, deux parcs en production, qui existent depuis 2017. Et on voit quand même que c'est des réalisations plutôt intéressante, faite en très peu de temps, mais oui, juste avec le travail de bénévoles. Donc oui, tout à fait, n'hésitez pas. Et puis surtout, on en recherche toujours des bénévoles,
Alors attendez, parce que la première question du coup qui me vient à l'esprit, parce qu'on va parler effectivement de ces deux parcs d'éoliens, dont le deuxième qui vient d'être mis en service, mais la première question qui me vient, en fait, ça vous rapporte quoi si vous êtes bénévole, parce que ça prend du temps de gérer une coopérative?
Alors, ça rapporte le fait de participer au développement des énergies renouvelables dans la région, tout à fait localement aussi. Et puis, c'est ça, de participer à cette belle aventure. On voit que, d'ailleurs, c'est le projet Cariac dont vous avez parlé, qui est notre deuxième parc en production, qui vient d'être mis en service, c'est un projet qui est une innovation. C'est la première fois qu'en France, il y a un parc photovoltaïque qui est porté, dont les panneaux solaires sont portés par des poteaux en bois brut, c'est-à-dire que c'est des troncs qu'on a été coupés à Cabreret, à 30 bornes de là où on les a posés sous les panneaux solaires et que c'est la première fois qu'on voit ça en France. Donc voilà, c'est la participation au développement des ENR, à essayer de démontrer que du photovoltaïque au sol, c'est pas forcément de l'artificialisation des sols. Quand c'est bien fait, nous on a des brebis sous les panneaux pour le premier parc. On espère bien que sous le deuxième parc, il va y avoir une activité agricole également. Et puis voilà, c'est de dire que de participer aussi à une aventure citoyenne. Quoi. Ouais. Voilà.
Alors, Silhouette est né en 2017, votre premier parc a ouvert en 2018, le deuxième, là, il a été mis la semaine dernière en service. Ça veut dire que ça fonctionne comment? Ces parcs produisent de l'électricité et il est reversé dans le réseau ou est-ce qu'il va dans les maisons, par exemple, des sociétaires?
Alors effectivement, on produit et on envoie ça sur le réseau public de distribution qui est géré par Enedis. Donc ça signifie concrètement que l'électron qu'on produit et qu'on met sur le réseau, il va être consommé localement par les voisins du parc, qu'ils soient sociétaires ou non de Silhouette. Ça va, si le premier voisin a sa machine à laver ou une ampoule d'allumer, c'est lui qui va consommer. Et puis s'il n'a pas tout consommé, ce qui est tout à fait probable, parce que quand même 250 kilowatts, ça fournit à peu près 100 habitants, enfin 100 foyers, ça ira dans la maison suivante.
Mais alors qui facture?
Mais donc voilà, c'est décorrélé du sociétariat. Pourquoi les gens deviennent sociétaires de Silhouette? C'est aussi pour participer et soutenir cette coopérative. Et effectivement, chaque part sociale donne une voix à l'Assemblée Générale de Silhouette et peut tout à fait aussi ouvrir aux bénévolats s'ils ont envie de venir s'amuser avec nous.
Mais qui la facture cette électricité au final? Est-ce que c'est vous-même ou ce sont c'est EDF ou des fournisseurs?
Alors, c'est effectivement fondamental comme question parce que, en gros, nous, notre acheteur, c'est Enercop. Enercop, c'est un fournisseur qu'on appelle alternatif, c'est-à-dire que c'est juste, cette expression, c'est juste pour dire que c'est pas le fournisseur historique qui est EDF. Tous les fournisseurs sont alternatifs dès lors qu'ils ne sont pas EDF. Mais donc, nous, c'est Enercop et c'est celui qui a été défini par Greenpeace il y a un an maintenant, je crois, comme étant le plus vert des fournisseurs alternatifs. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment en soutien des projets ENR, et typiquement, on le voit dans l'exemple de Selewat, c'est-à-dire que sans eux, sans Enercoop, on ne pourrait pas avoir un projet, enfin, Selewat n'existerait pas. C'est grâce aux sociétaires d'Enercoop, parce que aussi c'est une coopérative, c'est grâce aux sociétaires d'Enercoop qui sont prêts à payer une électricité un petit peu plus chère que Selewat existe. Concrètement, en fait, Enercoop nous fait un tarif de soutien. Donc, c'est-à-dire que là, le prix du marché de l'électricité, en gros, depuis quelques années, tourne autour de 5 centimes le kilowattheure. Enercoop, pour le premier parc, nous l'achète à 10 centimes, avec une garantie sur 25 ans, un tarif d'achat sur 25 ans. Et là, pour le premier parc, on a baissé et on est autour de 7 centimes. Donc, on voit qu'on est toujours au-dessus, bien au-dessus du prix du marché, et que sans le soutien de... Sans le soutien d'Enercoop, ben on ne pourrait pas. Nous, on fait quasi, c'est quasi notre coût de revient, le prix de vente. Hein, donc, on ne pourrait pas vivre avec. On ne pourrait pas faire tourner la coopérative avec le 5 centimes du prix de marché. Et donc, ce qu'il faut noter, c'est que, en fait, on est complètement hors obligation d'achat. Aujourd'hui, sur une. Enfin, toute la politique publique de l'électricité et du. Comment dire, du développement aux énergies renouvelables, de l'aide au développement des énergies renouvelables est fondée sur l'obligation d'achat, c'est-à-dire un soutien en fait des pouvoirs publics à tous ceux qui produisent ou presque de l'électricité, parce que nous en fait on est dans un petit trou de raquette, c'est-à-dire que on a des tarifs réglementés pour toutes les toitures solaires qui vont jusqu'à 100 kW crête, donc en gros c'est toutes les toitures agricoles qu'on a vues pousser depuis quelque temps, eux, ils sont sur un contrat avec EDF pendant 25 ans sur un prix garanti. Et en fait, ça se répercute. Oui,
pardon. Oui, pardon, je vous en prie. Timothée Hervé, qu'est-ce qui était le plus dur en fait à mettre en place, ne serait-ce que quand on veut faire un parc de panneaux solaires?
Qu'est-ce qui est le plus dur quand on veut faire un parc de panneaux solaires? En fait, quand on est bien accompagné, il n'y a rien de bien difficile. C'est tout, il faut réussir à tout faire en même temps et à faire fonctionner en même temps. Mais par exemple, pour la partie gestion, on a été très bien accompagné par Éclair, qui est une association d'aide aux porteurs de projets qui soutient beaucoup les projets ENR en Occitanie et qui aide sur toute la partie administration qui sont vachement pertinents. Sur la partie technique, on a été très bien accompagné dès le début par Mécogite, notre constructeur, pour nous appuyer sur tous ces aspects-là. Donc, en réalité, il n'y a pas de grosses difficultés. Il faut juste avoir envie d'y aller. Et puis même, on le voit qu'en plus, nous, on est vraiment dans des coins où il n'y a quand même pas grand monde. Malgré ça, on a réussi à faire tourner une coopérative avec des bénévoles qui habitent là.
Chaque parc produit 250 kW crête d'électricité. Ça veut dire quoi, kilowatt crête? C'est le maximum qu'il peut produire?
Exactement. Ça veut dire que s'il y a un bon soleil et qu'il ne fait pas trop chaud, parce que paradoxalement, il ne faut pas qu'il fasse trop chaud, il faut qu'il y ait un bon courant d'air pour que le panneau solaire produise à fond, dans des conditions optimales, il y a une puissance installée de 250 kW crête. Donc tout à fait pragmatiquement, en gros, c'est l'équivalent de 100 foyers, la consommation électrique de 100 foyers. Hors chauffage électrique, bien sûr.
Alors, c'est surprenant. Alors, ça veut dire que quand il y a des canicules, on pourrait penser que les panneaux solaires peuvent produire énormément et bien. Et en fait, non, alors, si je comprends bien.
Bah, c'est pas l'optimum. Alors, quand même, nos mois d'été sont les mois les plus ensoleillés. Donc c'est quand même les plus performants. Mais par exemple, une journée d'avril où il y a un grand soleil et où la température est fraîche, c'est là où les onduleurs dépassent les 50 kW. Hein. Donc, c'est un peu paradoxal. Ouais. Et c'est aussi pour ça que les parcs au sol sont plus performants que les photovoltaïques en toiture. Parce qu'il y a un meilleur courant d'air dessous et qu'il y a une meilleure aération en fait au sol.
Vous êtes au courant que Selewat fait quand même des émules et que finalement vous devenez un exemple pour pas mal de personnes ou de communes. Je parle par exemple de la commune de Mauroux qui s'est alliée avec une autre commune qui est la Capelle Marival, si mes souvenirs sont bons, pour faire eux aussi un parc solaire.
Alors, il y a beaucoup de projets, effectivement. Nous-mêmes, on s'est inspiré d'un projet qui était dans le Gard, hein, qui fonctionne sur la même idée, qui fait du 250 kW crête et qui a un tarif de soutien avec Enercoop. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de communes qui prennent le parti de fonctionner avec des citoyens. Bon, ce qui est un peu différent de nous, c'est vraiment d'abord les citoyens, puis on a quelques pouvoirs publics qui sont venus nous aider à la marge. Mais c'est vrai que c'est vachement intéressant de fonctionner directement citoyens et communes, enfin en tout cas collectivités locales, main dans la main, pour faire en sorte d'avancer. Et les citoyens apportant de la main d'œuvre et des bonnes idées, et puis les communes finançant. Principalement.
Pourquoi pas plus que 250 kilowatts?
Eh ben, c'est très simple, c'est une histoire de seuil de procédure administrative. En fait, le législateur a considéré que en dessous de jusqu'à 250 kilowatts crête, on était en procédure allégée. Donc, c'est-à-dire pas de permis de construire. On a quand même une déclaration de travaux, mais pas de permis de construire. Et puis, on n'a pas d'étude d'impact, donc pas d'enquête publique, etc. Ce qui permet à des citoyens comme nous d'avoir, comment dire, de pouvoir mettre ça en place, parce que c'est ça l'enjeu aussi, c'est de réussir à faire ça vite et bien. Nous, enfin, des citoyens, juste des bénévoles, partir sur un projet qui mettrait 5 ans à faire des procédures administratives, ce serait beaucoup trop long, on se démotiverait avant. Donc voilà, on reste sur ces seuils-là, ce qui permet aussi d'éviter des coûts d'études qui feraient que notre équilibre économique, l'équilibre économique du projet serait plus tenable. Donc, on essaye de faire remonter ce seuil. Là, on fait un plaidoyer au niveau national. Là, on a fait passer quelques courriers via les parlementaires l'autre fois, d'ailleurs, qui se sont tous unis dans un courrier commun pour demander à la ministre Pompili de faire évoluer ses seuils. On espère que ça va passer dans le cadre des décrets de la loi climat et résilience, là, de faire remonter ce seuil de 250 à 350, parce qu'en fait, bizarrement, ce seuil, il est fondé sur du kilowatt crête installé, alors qu'aujourd'hui, les panneaux gagnent en performance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un panneau, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais il est de plus en plus efficace. Et donc, pour une même surface occupée, on a plus de puissance.
Bon, enfin, de toute façon, clairement, c'est pas Silewatt qui va remplacer la centrale de Golfech, hein. On est d'accord.
Effectivement, il en faut beaucoup. Ouais. Il en faut beaucoup pour faire un monde. Et puis, on espère quand même que le solaire va prendre de plus en plus de place. Et puis, surtout, enfin, le solaire, les ENR de manière générale. Et surtout, on voit quand même que l'aspect citoyen facilite. Apporte au-delà de l'occupation des bénévoles localement, apporte une acceptabilité des projets sans ça, ferait que c'était pas évident qu'on installe aussi facilement des parcs solaires au sol dans des parcs naturels ou des choses comme ça. Donc ça facilite aussi de l'acceptabilité au niveau local, au niveau des pouvoirs publics locaux, le fait que ça vienne de citoyens.
Alors justement, pour terminer, Timothée Hervé, après ce deuxième parc, quel est le troisième projet pour Silewatt?
Eh ben, on cherche encore, on ne sait pas. Effectivement, l'idée, c'est de faire une grappe. Hein, donc, depuis le début, l'idée, c'est de faire une grappe de petits parcs solaires villageois. Donc, à deux, ça y est, on peut dire qu'on commence à remplir notre objectif. Néanmoins, on a quand même envie de poursuivre. On cherche, hein, donc c'est l'occasion de passer un petit appel. En gros, un projet, donc nous, on est plutôt sur le territoire de la vallée du Célé, des causses environnantes, un terrain... Qui serait intéressant pour Silewatt, c'est un terrain qui fait peut-être 2500 m², qui est bien exposé, évidemment, et puis qui a un transformateur pas loin, donc que ce soit un transformateur au sol ou un transformateur en haut d'un poteau, peu importe. Mais voilà, c'est ça qui va déterminer le choix de ce troisième terrain, qu'il soit communal, qu'il appartienne à un propriétaire privé, ça c'est tout est possible.
Et on rappelle que vous cherchez toujours des bénévoles qui peuvent venir vous rejoindre.
Volontiers.
Voilà. Et pour plus d'informations, donc j'imagine que vous avez un site internet.
Oui, www.cellewatt.fr, ouais.
Eh ben voilà, bravo en tout cas pour ce deuxième parc solaire que vous avez ouvert à Carayac, en tout cas pour Cellewatt. Et puis eh ben, on va suivre aussi pour les prochaines aventures. Merci beaucoup Timothée Hervé, je rappelle que vous êtes la directrice générale bénévole de Cellewatt. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.